À Libre-Échange, on fait une petite chronique historique aujourd'hui avec Félix Fournier qui est avec nous et on va parler d'Esdras Mainville. Et Esdras Mainville qui est décédé justement un 9 décembre aujourd'hui, il y a 44 ans, c'est en 1975. Et Félix va nous parler évidemment de la personne, Esdras Mainville, qui est né en 1896. Bonjour Félix.
Bonjour Richard.
Oui, donc Esdras Mainville, originaire de Grande-Vallée. Qui aura été un homme quand même assez occupé et important pour la région.
Probablement encore plus pour l'ensemble du Québec, parce que c'était un penseur, malgré toute sa grande carrière au niveau de professoral, il va être un grand penseur de ce qui va être le coopératisme au Québec. Eh oui, c'est ça, Esdras Mainville est né en 1896 dans mon magnifique petit village, dont la polyvalente s'appelle d'ailleurs Esdras Mainville. Il n'était pas du tout destiné à une carrière intellectuelle. Il devait être, comme tous les autres, promis à une carrière de pêcheur et un peu d'exploitation forestière l'hiver. Mais il est arrivé une entreprise forestière à Grande-Vallée, la Brown, qui va transformer un peu le paysage, dans le sens que les enfants vont passer, au lieu d'être des aides au niveau de la famille justement pour la pêche, ils vont devenir un fardeau fiscal. Parce que les parents vont travailler, le père va travailler à l'entreprise, il va avoir un salaire. Fait qu'avec ce salaire-là, au lieu d'être seulement de la morue, il va convertir, vu que Esdras était le dernier de 11 enfants, il va l'envoyer s'instruire. Donc, il va à Montréal, il s'inscrit au Collège Saint-Laurent, le Collège des frères des écoles chrétiennes à Montréal, puis il suit son cours secondaire, mais il est comme 5 ans plus vieux que toutes les autres.
Okay.
Il est comme le grand dans le fond de la classe où il fallait avoir beaucoup de résilience sûrement fait qu'il a obtenu son diplôme, il revient à Grande-Vallée. Fait que sa vie aurait pu continuer comme ça dans les entreprises parce qu'il travaille il y a une grosse entreprise de papier à Madeleine, la Great Eastern Paper.
OK.
Qui va procéder à l'électrification de Madeleine, qu'on parlera dans un autre épisode.
OK.
Puis il est commis là, il apprend, mais ensuite comme il y a beaucoup de facilité là-dedans et beaucoup d'amour, il s'inscrit aux hautes études commerciales à Montréal en 1919. Puis là, ça va être le moment charnière de sa carrière parce qu'il obtient sa licence en sciences commerciales puis il entre à l'emploi d'une maison de courtage, la maison J.E. Clément. Puis là, il aurait pu facilement aller du côté mercantile, aller vraiment dans le capitalisme. Il aurait sûrement eu une super carrière où il aurait réussi financièrement à Montréal. Mais il est approché par Lionel Groulx. Lionel Groulx, qui était professeur, historien, intellectuel, nationaliste au début du 20e, fin du 19e, début du 20e siècle. Puis il va écrire pour l'Action française. C'est à ce moment-là que Esdras Mainville va devenir un penseur du coopératisme.
Oui, parce qu'on parlait tantôt de création de beaucoup de justement d'entreprises coopératives, là, en tout cas au niveau de la province même, c'est ça?
Exactement. C'est que on vit depuis 1917, il y a eu le renversement de la Russie qui est devenue l'Union soviétique. Il y a un très gros courant du communisme. Le communisme est anti-religieux. Lionel Groulx, bien sûr, est du côté de la religion. Fait que les penseurs, et aussi Édouard Montpetit, qui est presque directeur, qui a un poste adjoint directeur à l'Université de Montréal, ils pensent une méthode alternative au communisme, parce que le communisme est contre la religion. Et ça sera le coopératisme. Parce que les Québécois, à l'époque, ont très peu de leviers économiques. Donc, on veut leur offrir les leviers économiques, puis on pense que le coopératisme sera la voie. Donc, Esdras Mainville continue. Il écrit pour l'actualité économique et il devient professeur à temps plein au HEC en 1927. Ce qui est, somme toute, déjà une très grande réussite pour un petit-fils de Grande-Vallée. Il était de deuxième génération né à Grande-Vallée parce que son grand-père était né à Montmagny. Ses parents étaient la première génération qui était née à Grande-Vallée.
Okay.
Presque tous les gens de l'enclave de Grande-Vallée à Saint-Yvon proviennent de Andes-Saint-Jean-Port-Joli puis Montmagny. On parle de ça dans un autre épisode.
OK.
Donc, il devient directeur. Il est professeur au HEC. Il est directeur de la Ligue d'action nationale. Puis c'est là qu'il est avec toute l'intelligentsia, comme on parlait, Édouard Montpetit, Lionel Groulx, ces gens-là. Puis ils vont travailler. Puis ils vont prendre des méthodes. C'est pas seulement en théorie, là. Parce que quand ils développent des mécanismes sur le coopératisme, dans l'esprit d'Alphonse Desjardins, qui, quelques années plus tôt, avait fondé la Caisse populaire. Il va prendre le train le vendredi. Il descend à Grande-Vallée. Il descend le fleuve. Puis il vient passer les fins de semaine à Grande-Vallée parce qu'ils veulent développer la colonie de Grande-Vallée.
Oui, bien, il y a eu un projet à l'époque là, qu'il a amené là, du côté de Grande-Vallée, là, c'est ça?
C'est exactement parce qu'il voulait, l'esprit du coopératisme était s'approprier la forêt, puis l'agriculture. Il y avait comme tout le temps une espèce de vieux rêve catholique d'enlever les gens de la pêche, dans lequel il les voyait comme exploités, mais aussi qu'il n'y avait pas un travail annuel.
Oui.
Et les rapporter vers la terre. Donc, on ouvre des terres d'agriculture dans l'arrière-pays, à Grande-Vallée. Ben, c'est l'arrière-pays quand même relativement proche. Fait qu'il va venir, puis il va, avec le curé de l'époque, le curé Bugeaud, ils vont travailler justement au développement de la colonie de Grande-Vallée pour replacer des gens en agriculture. Malheureusement, le climat de chez nous étant ce qu'il est,
ouais.
Le succès sera limité sur l'agriculture. Puis, tout en faisant ça, il publie de façon continue. En 1938, il devient directeur des hautes études commerciales. Oui. Ce qui est quand même, là, c'est le premier Canadien-Français qui est directeur des hautes études commerciales à Montréal. École que nous retrouvons encore. Il est très près du gouvernement parce qu'il participe souvent à des commissions, comme la commission Royal-Sirois. Puis, il publie en même temps la législation ouvrière et le régime social de la province du Québec. Et fera partie d'une près de 24 livres qu'il va publier. Donc, La pêche et la chasse. J'invite les auditeurs, s'ils veulent se mettre la main dessus. Je l'ai lu il y a peut-être une dizaine d'années. Puis les 10 premières pages, t'as vraiment l'impression qu'il a écrit ça il y a 3 semaines.
Ah, OK.
C'est... Les génies sont intemporels. Puis ça, c'est la meilleure preuve du... Toute l'intelligence de Strauss-Mainville. En 1947, il est président de la Chambre de commerce de Montréal. Puis en 1962, il va prendre sa retraite. Mais ce ne sera pas sans avoir reçu une quantité phénoménale de doctorat honoris causa. Un doctorat honoris causa qui... Tu n'as pas reçu un doctorat de l'université, mais pour souligner ton travail immense dans ton champ d'expertise, les universités reconnaissent ton travail en te remettant un doctorat honoris causa qui va recevoir de l'Université d'Ottawa, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal. Il va prendre sa retraite en 62. Il va continuer à écrire beaucoup. La série de 24 volumes s'écrit en partie durant sa retraite. Et il décède, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a 44 ans aujourd'hui, le 9 décembre 1975.
Alors voilà pour ce parcours d'Esdras Mainville. On voulait t'inviter justement, Félix, pour nous en parler. Je sais que tu avais de l'intérêt justement pour le faire. Bien, merci beaucoup pour nous avoir parlé justement de ce personnage important qui a marqué donc le Québec, comme tu dis. Merci bien.
Ce grand Grande-Vallée. Merci voilà. À toi, Richard.
Merci.